L'évolution du climat est depuis quelques années au cœur d'enjeux majeurs pour l'humanité et la planète. Plus une journée sans que les préoccupations liées au réchauffement n'apparaissent comme l'un des grands défis à venir. Et pourtant, malgré les apparences, les humains prennent en compte ces questions depuis longtemps, très longtemps, depuis même plusieurs siècles. Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher sont avec nous pour en parler. Bonjour. Tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous publiez ensemble donc cet ouvrage Les Révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle dans lequel on découvre eh bien, que cette question préoccupe en fait les sociétés occidentales depuis la colonisation de l'Amérique. On va se retrouver donc dans un instant pour en parler et vous allez répondre aux questions et aux messages des auditeurs de l'émission qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Passage au vert tout à l'heure à 14h30.
Oui, pour comprendre si baisser la vitesse sur la route a un impact réel sur le climat.
On est pressé de le savoir. Dans la deuxième demi-heure, le dernier épisode du feuilleton de Caroline Gillet consacré à la place des femmes en archéologie. Et puis enfin, dans la saga des humains, Evelyne Heyer nous parlera aujourd'hui de l'homme de Denis Sauva. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Anna Massardier avec à la technique Florent Layani.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Vos excellences connaissent-elles les déclarations de Marin de Tir ? De Tir pense que l'océan ne fait que 750 lieues. Toscanelli, le Florentin, et le cardinal français Pierre d'Ailly tiennent tous les deux pour juste les calculs de Marin de Tir. Par conséquent, la mer océane peut être traversée.
Alors supposons un bref instant que Marin de Tir ait raison. Sénat Colomb, combien de temps durerait ce voyage, selon vous ?
7 semaines. 6 pendant la saison des alizés.
Marin de Tir se trompe, et son erreur a été redressée à maintes reprises au cours des siècles par les plus grands géographes. Votre voyage, ne vous en déplaise, prendrait 1 an.
Voilà, extrait de 1492 de Ridley Scott, Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, donc nos invités cet après-midi, tous les deux historiens des sciences et de l'environnement, chercheurs au CNRS, et donc cet ouvrage, Les Révoltes du ciel, cette histoire du changement climatique du 15e, justement, Christophe Colomb, nous y sommes au 20e siècle, c'est aux éditions du Seuil. Alors pourquoi cet extrait? Bien justement pour illustrer ce livre dans lequel vous expliquez que la question du changement climatique et la volonté de contrôler l'empreinte des actions humaines sur l'environnement n'est pas du tout récente. Elle remonterait justement au 15e siècle avec Christophe Colomb, avec les colonisateurs de l'Amérique. Et votre travail d'historien nous permet donc de nous rafraîchir un peu la mémoire aussi et de comprendre que cette question du climat préoccupe les sociétés depuis longtemps. Jean-Baptiste Fressoz, on pourrait dire que Christophe Colomb, c'est le premier héros de votre histoire du climat ?
Alors c'est l'un des premiers effectivement qui intervient dans notre histoire, mais sans doute pas un héros,
ouais.
Pour plein de raisons différentes, mais de même que...
Protagoniste alors,
protagoniste,
on va dire,
hein, voilà.
C'est plus juste. Ouais.
C'est vrai que Christophe Colomb en fait est l'un des premiers à écrire, enfin à dire que en coupant de la forêt, on change le climat, mais pour lui c'est quelque chose de positif, c'est une action positive sur le monde. Et pourquoi il dit ça ? Parce que c'est un grand impérialiste.
Oui.
L'enjeu, c'est d'expliquer à ceux qui financent ces expéditions, en particulier la 4e expédition, qui est une très grosse... Enfin, à partir de la 2e expédition, ça devient des très grosses expéditions. On envoie beaucoup d'hommes. On prévoit déjà de coloniser, vraiment, de s'établir aux Caraïbes. Et l'enjeu pour Christophe Colomb, c'est d'expliquer que le climat, qui paraît assez mauvais, parce qu'il a rencontré les pluies de la mousson, enfin, pas la mousson, mais les pluies diluviennes qu'il y a sous les tropiques l'été, et il estime que c'est un défaut climatique, et qu'une fois qu'on aura déforesté, qu'on aura dégagé, il emploie des termes positifs, hein, les arbres, il y aura plus autant, il ne se générera plus autant de pluie. Donc c'est vraiment un discours d'amélioration. Et l'enjeu aussi, c'est de dire, d'une part, bon, pour les financeurs, ça vaut le coup d'investir parce qu'à terme, on va transformer les Caraïbes en quelque chose qui ressemble finalement aux Canaries. Qui vivent un énorme boom sucrier.
Ouais.
Donc c'est vraiment, on a parlé de sucre et de néonicotinoïdes récemment, mais si vous voulez, le sucre, c'est vraiment une histoire très longue du capitalisme, de l'esclavage aussi, et ça commence pour les Européens avec les Canaries. Et donc c'est de dire, on va améliorer le climat, et ce faisant aussi, il est en train d'expliquer que les Indiens ne possèdent pas vraiment...
Oui, ils n'ont pas fait le boulot, quoi.
Ils n'ont pas fait le boulot, et si le climat est mauvais et trop humide, c'est parce que les terres ne sont pas vraiment mises au travail, ouais. Et donc elles ne sont pas vraiment possédées par ces Indiens.
Ouais. Donc c'est une façon aussi d'asseoir la colonisation, finalement. Hein.
Tout à fait. Disons que dans toute la première partie du livre, ce qu'on raconte avec Fabien, c'est que le discours du changement climatique, jusqu'à la fin du 18e siècle, en fait, c'est un discours impérial.
Ouais. Fabien Locher, justement, alors, il y a effectivement cette première histoire avec Christophe Colomb. Et puis dès le départ, effectivement, au XVe siècle et un petit peu après, il y a l'exploitation du bois qui est très importante. Et c'est vrai que la forêt joue un rôle aussi très très important dans toute cette histoire du changement climatique.
Oui, effectivement, dans notre livre, ce qui est central, c'est vraiment la question de l'agir humain sur la forêt et donc sur le climat. Ce qui est en cause, ce n'est pas le cycle du CO2 qu'on a aujourd'hui dans le changement climatique contemporain, c'est vraiment la question du cycle de l'eau, avec des inquiétudes ou des espoirs basés sur le fait qu'en coupant les arbres ou en reboisant, ben on va changer le climat en bien ou en mal. Donc c'est vraiment la question de l'arbre, hein, qui traverse aussi notre livre. Alors c'est difficile aujourd'hui de comprendre à quel point l'arbre était important pour les sociétés du passé. C'était bien la principale source d'énergie, c'était un lieu de vie, c'était quelque chose qui servait pour la construction, c'était un matériau stratégique, hein, puisqu'avec le bois, hein, comme le disait Colbert, on fait les marines de guerre du futur. Et donc on se posait énormément, hein, la question de la gestion, du gouvernement de cette ressource en bois. On a pu dire à raison, hein, aussi que la maîtrise et la régulation des forêts, c'est un des lieux, hein, d'édification des États en Occident. Donc c'est vraiment là aussi que s'est fait l'émergence des pouvoirs étatiques. Et donc discuter des forêts, c'était quelque chose de fondamental. Faire une politique forestière, c'était quelque chose de fondamental. Avec derrière toujours l'idée que il y avait des conséquences climatiques, hein, à l'agir forestier.
Ouais.
Donc c'est vraiment au cœur du livre.
On peut dire, Fabien Locher, finalement, que le bois, c'est l'équivalent du pétrole aujourd'hui, pour avoir une idée de l'importance de ce matériau.
Oui, on dit parfois que le bois, c'était à la fois le pétrole et le béton de ces sociétés. Mmh. C'est-à-dire à la fois la principale source d'énergie et vraiment un matériau fondamental, hein, pour les sociétés. C'était aussi très important pour les communautés de cette époque qui avaient ce qu'on appelle des communs forestiers, c'est-à-dire des forêts où on pouvait aller chercher du bois mort, des champignons, des baies, pour pouvoir s'alimenter pendant les récoltes déficitaires. Enfin, c'était quelque chose qui était aussi... Il faut bien comprendre que discuter des forêts à l'époque, c'est vraiment discuter aussi de la survie, hein, d'un grand nombre de communautés. C'est pas simplement en discuter comme ça d'une ressource abstraite. Ouais. Et puis, il y a aussi la grande idée du défrichement. Mmh. Pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-Baptiste, il y a l'idée quand même que défricher et mettre en culture, c'est être civilisé.
Ouais.
Et donc... Voilà, c'est ce que les Indiens n'ont pas su faire, disaient les conquérants en Amérique.
Mais alors justement, Jean-Baptiste Fressoz, on voit qu'il y a une certaine théorie climatique finalement qui naît là dès la fin du 15e, début du 16e siècle avec Christophe Colomb. Mais comment finalement il a cette idée qui peut paraître étrange que la forêt peut générer la pluie? Sur quoi il base finalement son jugement, là, son idée?
Alors, je voudrais tout de suite modérer l'idée que Christophe Colomb découvre ça. Tout comme il n'a pas découvert l'Amérique, c'est pas lui qui découvre, à mon avis, la relation entre ce qui se passe sur le sol et le climat. Pour une raison toute simple, c'est que dans la physique aristotélicienne, il y avait déjà cette idée d'une circulation de l'eau, un lien entre les météores et le sol. C'est quelque chose qui est déjà établi. En outre, dans les théories géographiques de l'Antiquité, il y avait la notion de climat qui était une notion purement géodésique, un espace entre deux latitudes.
Oui.
Et puis, il y avait la notion de zone. La notion de zone torride, zone frigide, zone tempérée, elle est déjà plus malléable. Et elle est causée évidemment par la latitude, hein, enfin c'est déterminé par latitude, mais s'il y a des grandes rivières, ça change le caractère de la zone. C'est pour ça que le Nil est autour du Nil, c'est habitable, autour du Gange, c'est habitable, alors qu'on est en pleine zone torride. Donc disons que déjà dans les savoirs de l'Antiquité, on pouvait penser des choses comme le changement climatique. C'est pas une énorme découverte qu'il faut mettre au crédit de Christophe Colomb, ça c'est le premier point. Après, c'est vrai que Christophe Colomb vraiment argumente ça. Alors d'où il tire cette idée très très particulière quand il dit les arbres attirent la pluie, hein. Alors d'où ça vient? Une des raisons, c'est que il y a une île aux Canaries qui s'appelle Isla del Hierro, l'île de fer, qui est ultra célèbre à cette époque parce que c'est l'île la plus à l'ouest du monde connu. C'est le méridien zéro des navigateurs.
Ouais.
Donc c'est une île qui est très célèbre.
Il a fait escale là-bas d'ailleurs.
Il a fait à La Gomera qui est juste à côté. Ouais. Il n'a pas fait escale exactement à Isla del Hierro.
Mais aux Canaries en tout cas.
Oui, il fait forcément escale aux Canaries. Ouais. Toutes ces expéditions doivent se ravitailler aux Canaries. En particulier se ravitailler en eau. Et sur l'Isla del Hierro, il y a une sorte de légende qui est qu'au sommet de cette île, il y a un arbre miraculeux. Qui aurait ce pouvoir d'attirer l'eau. Les populations berbères qui habitent sur place s'appellent des guanches et ils auraient détenu ce secret merveilleux de cet arbre magique quasiment. Et c'est ça qui leur aurait permis de résister à plusieurs tentatives de conquête par les Espagnols. Donc ce petit prodige, qui peut sembler assez mineur, en fait il est très connu. Tous les chroniqueurs, à partir du XVIe siècle, le relatent. Et je pense qu'il a eu une importance certaine dans toutes ces théories du lien entre arbre et précipitation. Mmh. Après, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que là, on parle d'un prodige qui, en fait, remonte au Moyen-Âge, qu'on connaît bien au XVIe siècle, mais à partir du XVIIIe siècle, on étudie sérieusement la physiologie des plantes. C'est-à-dire, en gros, de quoi un arbre a besoin pour vivre. Et qu'est-ce qui se passe en termes d'échange de matière? Et on connaît le phénomène d'évapotranspiration, c'est bien quantifié. Et donc, on sait que les arbres, toute la végétation, c'est comme plein de petites usines de vapeur.
Alors, on va revenir évidemment avec vous sur quelques épisodes, hein, parce qu'il y a énormément de choses. Hein. C'est vraiment une histoire très foisonnante donc du changement climatique. Fabien Locher, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la période moderne, très récente, c'est ce que vous dites, nous ferait sortir finalement d'une sorte d'amnésie au sujet de cette histoire du changement climatique, un interlude historique qui a recommencé à la fin du 19e jusqu'aux années 50, où finalement le climat, Fabien Locher, était passé, on pourrait dire presque en dehors des radars de nos consciences, c'est ça?
Alors oui, ce qu'on montre, c'est que pendant des siècles, on a eu une grande conscience du changement climatique possible et on s'est beaucoup interrogé sur l'agir climatique humain, c'est-à-dire l'action de l'homme sur le climat. Et que ce qu'on montre, hein, c'est que pendant une période qui va, disons, de la fin du 19e siècle aux années 1950-1960, ces inquiétudes, ces angoisses, ces interrogations ont été mises de côté, en fait. Mm-hmm. Alors pourquoi est-ce qu'on est sorti, en quelque sorte, de l'inquiétude climatique qui était très très forte au 19e siècle? Il y a plusieurs raisons. Une raison massive, hein, c'est assez ironique d'ailleurs, c'est le fait qu'avec le chemin de fer et les bateaux à vapeur à la fin du 19e siècle, les sociétés occidentales deviennent beaucoup moins vulnérables aux variations à l'échelle de la saison, de l'année, de la décennie, parce que simplement si on a une disette à un endroit donné, si on a une mauvaise saison, une mauvaise récolte, on peut importer très facilement de l'extérieur, y compris d'Odessa ou des États-Unis, du blé. Et donc, il y a quelque chose d'ironique, c'est en rentrant dans la société industrielle qui est la cause de notre changement climatique contemporain, hein, qu'on se désensibilise en un certain sens aux inquiétudes relatives à l'agir climatique humain et au changement climatique en général. Ouais. Et puis, l'autre raison, c'est aussi que la science qui traite de la question des changements climatiques depuis le XVIIe siècle, la science arrive à une espèce d'impasse à la fin du XIXe siècle. Elle a produit énormément d'outils, énormément de savoirs, énormément de discours qui seront réutilisés jusqu'à aujourd'hui par les scientifiques. Mais par contre, personne n'a réussi à prouver qu'il y avait effectivement un agir sur le climat de l'homme, ou bien qu'il n'y avait pas un tel agir. Donc on arrive à un moment où la climatologie contemporaine se construit en laissant de côté, à la fin du 19e, la question de l'agir humain sur le climat.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour poursuivre cette histoire. On va voir que la France, d'ailleurs, a joué un rôle tout particulier, l'épisode de la Révolution d'ailleurs, et puis vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr.
J'avais du soleil. J'avais du soleil. Impression, soleil levant. Un frisson à l'éveil du vent. Les heures tournant, colorant la cathédrale de Rouen. À Paris, il lèche les toits. Marrakech, El Koutoubia. J'avais du soleil. J'avais du soleil. J'avais du soleil. Les bimbotocs, les fidèles. Les black blocs et les prix Nobel. Comme le roi soleil Louis, il croit que tout le monde est à lui. Mais le pire, c'est l'empire qu'il a sur ma Laura. Il n'a de cesse qu'il caresse Laura, ma Laura. J'avais du soleil. J'avais du soleil. J'avais du soleil. J'aime du soleil. Moi j'attends dans le couloir. Moi j'attends son bon vouloir. Et Et lui, soleil malhonnête, il rentre par la fenêtre de Laura adorable. Allongé sur son drap bleu, jaloux du soleil, 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 jaloux du soleil.
Extrait de son dernier album Jaloux du soleil, Alain Souchon.
La Terre au carré sur France Inter.
L'homme lui-même pourrait bien être responsable de certaines dégradations climatiques. Depuis le 19e siècle, une quantité chaque jour croissante de charbon et d'hydrocarbures est brûlée dans le monde. Cette opération aboutit à la libération de quantités énormes de gaz carbonique, quelques 20 milliards de tonnes par an actuellement. La quantité globale de gaz carbonique présente dans l'atmosphère augmente donc de façon sensible, malgré la présence des océans et de la végétation qui en absorbe une fraction appréciable. Réchauffement ou refroidissement de la Terre, l'opinion publique s'interroge.
Moi, je crois une chose, que depuis, il y a tout ce qui vole en l'air, hein, mais qui ont un peu détraqué un peu le temps, hein.
Depuis, je crois qu'on a fait des expériences dans le cosmos. Là, je crois qu'il y a quelque chose de dérangé.
Bah, tout le monde vous dira que c'est un peu la bombe atomique, mais enfin, moi, j'y crois pas. Quoi. C'est un peu, peut-être, de façon générale, la Terre qui se réchauffe ou qui se refroidit.
Voilà, ça, c'est une archive de l'INA de 1977. Hein. Voilà ce qu'on disait à l'époque du climat. Et finalement, bah, c'est une époque aussi où on commence à reparler de cette question du changement climatique. Et c'est l'objet de votre livre, Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, Les Révoltes du Ciel aux éditions du Seuil. Camille, une question.
Thierry sur franceinter.fr. Périodes glaciaires et périodes chaudes se sont succédées depuis des millénaires. Le taux de CO2 évolue entre 180 et 280 ppm. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 400 ppm. Ne croyez-vous pas qu'une partie des chefs d'État et de la population mondiale pense qu'il est trop tard pour agir de façon très efficace, Jean-Baptiste Fressoz?
Alors, il y a plein de choses à commenter, à dire. Bon, premièrement, sur l'archive, et ça renvoie aussi à la question, archive de 1977.
Ouais.
En fait, les savoirs de base sur le changement climatique actuel, hein, c'est des papiers de 1956 qui montre que le CO2 ne se dissout pas dans l'océan comme on pouvait l'espérer auparavant. Et donc à partir de cette date-là, on sait très bien que le climat va se réchauffer. Je veux dire, il y a la science de base est déjà établie. Il faudra attendre des articles de 84-85 pour être pour la démonstration parfaite de la corrélation entre température et CO2, c'est les fameuses carottes glaciaires, etc. Mais disons, dès 56, on avait quand même de bonnes connaissances. En 58, Edward Teller, un grand physicien américain, fait un grand discours sur le changement climatique aux pétroliers qui sont réunis à New York. Et c'est ce que dit l'auditeur, quoi. Depuis ce moment-là, on fait que procrastiner, on n'a pris aucune mesure sérieuse.
Alors c'est ça, ouais. Et vous le soulignez aussi d'ailleurs, hein. C'est vraiment, c'est l'une de vos thèses aussi, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'urgence, mais dans la procrastination sur des mesures très désagréables à prendre. Hein.
Évidemment, ouais. C'est-à-dire que ceux qui arrivent en disant, voilà, il y a une solution, ça va être les voitures électriques, ça va être du tout renouvelable, etc. En fait, c'est trompeur, c'est-à-dire le problème, c'est qu'il y a des effets rebonds. Si, je sais pas, vous commencez à consommer moins de pétrole en Europe, le prix du pétrole va diminuer, donc on en pourra consommer plus dans des pays moins riches. Donc tout ça fait que c'est extraordinairement effectivement compliqué et qu'il n'y a que des solutions désagréables en vérité. C'est ça l'enjeu.
Fabien Locher, la France joue aussi un rôle central dans cette histoire du changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors oui, effectivement, notre livre, hein, il n'est pas au départ centré sur la France. On a regardé ce qui se passait en Angleterre, aux États-Unis, en France, dans d'autres contextes, dans les empires. Mais ce qui est vraiment apparu dans notre recherche, c'est que il se passe quelque chose de fondamental en France entre la Révolution française et la fin du 19e siècle. C'est qu'il y a une politisation extrême de la question du changement climatique à la suite de la Révolution. Parce que ce qui se passe, c'est que tout est transformé de l'ordre social et politique. La gestion question des forêts, la nature de ce qu'est la propriété privée, la domanialité publique, mais aussi la question de savoir si un État a le droit ou pas de réguler les usages de la nature. Et tout ça fait que le changement climatique va devenir un objet intensément chaud, hein, discuté à l'Assemblée, dans les journaux, etc., et que la France va jouer un rôle immense, hein, à ce moment-là. Ensuite, on va avoir d'ailleurs des échos des débats français aux États-Unis avec quelqu'un que connaissent bien les historiens de l'écologie, George Perkins Marsh, qui va reprendre ce discours aux États-Unis. Il va y avoir des échos dans l'Empire austro-hongrois, des échos dans d'autres contextes. Oui. La France est donc pendant un demi-siècle, hein, en quelque sorte, l'épicentre, hein, des angoisses climatiques entre la Révolution française et le mid-19e.
Oui, c'est ça, parce que vous dites, Fabien Locher, la France, notre pays, est perclus d'angoisses, justement. Ça expliquerait que dans aucun autre pays, on a vu autant émerger les débats, les inquiétudes autour de ces questions-là?
Alors il y a quelque chose de contingent là-dedans, hein. C'est lié à des processus historiques contingents, c'était pas écrit par avance, mais il se trouve qu'effectivement c'est la France qui a condensé en quelque sorte ces angoisses autour de la grande question quand même de l'héritage environnemental de la Révolution. Ouais. Est-ce que la Révolution n'aurait pas dégradé le climat de la France, ou alors est-ce qu'au contraire c'est la monarchie qui aurait auparavant abîmé, hein, notre climat. Alors ça veut pas dire qu'ailleurs il n'y ait pas eu des inquiétudes, hein. Par exemple aux États-Unis à la fin du 19e siècle, il y a une grande inquiétude sur le changement climatique. Dans les empires, par exemple en Inde, les Britanniques utilisent beaucoup cet argument du changement climatique pour accuser, hein, les autochtones d'avoir mal géré leurs forêts et donc prendre le contrôle des immenses forêts indiennes. Mm-hmm. Donc il y a une histoire globale de tout ça avec, ça a été un peu notre chance aussi dans notre enquête. Il faut bien dire que en fait, il y avait déjà eu des travaux sur le changement climatique anthropique dans l'histoire, mais nous on est tombé en quelque sorte sur cette séquence historique vraiment fondamentale et qui était centrée sur la France.
Et de quels outils est-ce qu'il disposait, Jean-Baptiste Fressoz, il y a 2, 3, 4 siècles? Parce qu'aujourd'hui, on parle de changement climatique parce qu'il y a des outils. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes. Donc, est-ce qu'il ne confondait pas climat, météo? Pouvez nous expliquer comment il se rendait compte de ce changement climatique?
Alors ça, c'est quelque chose qui nous a surpris. C'est qu'en fait, c'était la meilleure science possible à l'époque qu'ils essayaient de faire. Alors évidemment, ils n'avaient pas, je sais pas, les satellites, les ballons sondes et les supercalculateurs. Donc c'est d'autres outils, mais par exemple, ils vont, à partir des années 1660, on commence à avoir des enregistrements météorologiques réguliers. C'est-à-dire les personnes s'astreignent à prendre la température 3 fois par jour, tous les jours, pendant des années. Bon. Et dans les années 1770, donc un siècle après, on commence à considérer ces registres thermométriques d'un point de vue rétrospectif pour essayer de détecter justement des variations. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de météorologie, on parle vraiment d'évolution sur, à l'échelle des temps historiques, plusieurs décennies, le siècle, des caractéristiques climatiques des lieux. Et alors, ça marche pas super bien, en vérité, parce que les thermomètres, ils sont jamais bien calibrés, etc. Donc, finalement, ils arrivent à des solutions plus robustes et plus convaincantes, c'est les proxys climatiques. Alors, qu'est-ce que c'est un proxy, peut-être? C'est un phénomène qui a un rapport avec le climat, mais qui est pas directement une mesure thermométrique. Et donc, ils vont étudier quoi? Alors, premièrement, les glaciers. Et il y a des travaux suisses, en particulier des années 1760, qui sont fascinants de précision, pour essayer de renseigner l'évolution des glaciers sur 4 siècles. Ils vont chercher des vieux cadastres, ils font vraiment des choses assez extraordinaires. C'est de là que va naître la théorie des âges glaciaires, hein, quelques décennies plus tard. L'enjeu, si vous voulez, est aussi hyper important, bah, par exemple pour les Suisses, parce qu'il y a une théorie qui est hyper dominante à cette époque, c'est celle de Buffon, qui est que la Terre court à la mort thermique. Ouais. En gros, la Terre, c'est un morceau de soleil. Ça se refroidit inexorablement. Et les Suisses, quand ils voient les glaciers avancer à la fin du 18e siècle, ils se disent, bon, ben, est-ce qu'on est aux premières loges de la mort thermique du globe? Bon, c'est des enjeux eschatologiques énormes, en fait, qu'on étudie quand on étudie le climat. Donc, je vous ai dit, les glaciers, l'étude de la végétation et du changement, en particulier en montagne, des étagements de la végétation. Pourquoi on trouve des troncs d'arbres fossiles à des climats, à des altitudes où ça peut plus pousser? Est-ce que ça indique qu'il y a un refroidissement? Après, il y a l'étude des bancs de vendanges un peu plus tard, l'étude des fleuves. Enfin, voilà, je veux dire, moi j'étais assez époustouflé, en vérité, par la précision, l'effort, la qualité des recherches qui sont menées à partir des années 1760-1770.
Et c'est cette science du climat aussi que vous décrivez et qui est en train de se faire finalement jusqu'à celle dont nous avons hérité aujourd'hui.
Il faut bien voir qu'en gros, les climatologues, ils héritent des méthodes de la climatologie historique aussi.
Allez, les révoltes du ciel, cette histoire du changement climatique au seuil, on en parle aujourd'hui dans La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au carré.
Autre question importante pour le climat, Camille, avec aujourd'hui les limitations de vitesse sur la route.
Le sujet sensible par excellence qui doit être dans le top des micro-trottoirs à la télé avec le prix de l'essence. Baisser la vitesse ou pas au nom de la sécurité routière, bien sûr, mais aussi du climat. Vous savez que dans les propositions de la Convention citoyenne, il y avait celle de faire passer les autoroutes à 110 plutôt qu'à 130. Mais Emmanuel Macron a directement sorti sa carte joker en juin.
Si on fait ça, je vous l'écris, nos concitoyens qui sont dans les territoires les plus enclavés, qui parfois mettent tous les jours 45 minutes, une heure, en utilisant les grands axes pour aller travailler, dont la vie s'organise par ces transports, ils vont dire, ok, leur projet, c'est un projet, il n'y a pas de place pour moi. Et donc je propose de repousser ce débat.
Repousser ce débat pour ne pas dire passer l'idée à la trappe. Alors les citoyens affirmaient que cette baisse permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% sur autoroute. La semaine dernière à Paris, une consultation a été lancée pour faire passer la vitesse à 30 km/h. D'abord pour les accidents, mais aussi pour la pollution de l'air. Et puis, on se souvient du passage des 90 à 80 sur National. Bref, tout ça m'a donné envie de faire un peu de physique.
J'ai quelques drôles d'idées
parfois, Mathieu. Pour savoir donc si rouler moins vite est forcément bon pour le climat, j'ai donc appelé, j'ai pas fait les calculs, faut pas trop rêver, j'ai appelé Manuel Ildefonso, maître de conférence en physique à l'université de Pau.
La réduction a toujours un effet. La réduction de vitesse va augmenter le temps proportionnellement, mais par contre va réduire la quantité d'énergie nécessaire au carré de la vitesse. Donc une réduction de la vitesse de 15% entraîne une réduction de la consommation d'énergie de 23%.
Bon, je ne vous donne pas tous les détails du calcul parce qu'il y a quelques petites subtilités, mais 23% d'énergie en moins en roulant donc à 110 plutôt qu'à 130. Presque un quart, c'est beaucoup. Tout dépend en fait de la résistance de l'air. Il m'a expliqué une fois qu'il était rentré chez lui un petit peu plus au calme.
Plus on va vite, plus l'air nous empêche d'aller plus vite et plus on va avoir besoin d'une grande quantité d'énergie pour maintenir cette vitesse ou l'augmenter.
Voilà, c'est pareil que courir face au vent. Hein. Ouais. Donc moins d'énergie consommée en allant moins vite, Mathieu, c'est moins d'essence brûlée qui émet du CO2 pendant qu'on roule et moins de plein à faire aussi. Donc en fait, on a besoin d'importer moins de pétrole. C'est pas trop mal non plus pour la planète. Mais les choses ne sont pas si simples.
On part sur des hypothèses de physique, on maintient une vitesse constante dans le véhicule, on n'a pas d'arrêt, on n'a pas de temps où on est bloqué dans les embouteillages, ce qui en ville n'est pas du tout le cas.
Aïe, aïe, aïe. Donc cette baisse des émissions de CO2 est valable à condition de ne jamais décélérer ou accélérer et à part sur l'autoroute qui représente un tiers des trajets et encore une autoroute dégagée. Donc, eh ben, c'est pas gagné. Jean Thévenon, membre du réseau Transport et Mobilité Durable chez France Nature Environnement, le confirme en prenant, lui, l'exemple des nationales ou départementales.
Bon, les chiffres qu'on donne, on suppose toujours qu'entre le point A et le point B, on roule en permanence à 90 km/h ou à 80 km/h, ce qui est totalement faux. Ça n'existe pas. Sauf sur les lignes droites des Landes, peut-être, il y a peut-être bien quelques lignes droites en France où on fait 30 km sans trouver un patelin. Mais il faut les chercher, hein. Franchement, il faut les chercher.
Et en ville, c'est pire.
On ne sait pas optimiser un moteur thermique en dessous de 50 km/h. Personne ne sait, je veux dire. Hein. Moi, j'ai bossé pendant 4 ans et demi avec les ingénieurs de PSA sur la consommation des véhicules. Les chiffres sont implacables. Hein. La consommation maxi, elle est en ville.
Voilà, donc l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, a même relevé dans un rapport en 2014 parfois une hausse des émissions de CO2 malgré l'abaissement de la vitesse. Donc, on ne peut pas faire de généralité, ça dépend trop des axes et de la conduite. Et c'est pareil pour la pollution de l'air, bien sûr. Alors, on se dit que rouler moins vite émet moins de polluants et de particules fines, d'oxyde d'azote. C'est vrai, encore une fois, hein, 20% en moins, par exemple, sur autoroute, mais à condition uniquement que la vitesse soit constante, autrement dit que la circulation soit fluide, parce que dès qu'il y a congestion, ce n'est plus la même et là aussi ça peut être contre-productif avec plus d'émissions et de concentration.
Et alors on fait quoi, Camille, si on a une voiture essence?
Alors en ville c'est pas compliqué, hein, ouais. On passe au vélo et, ou en transport en commun, ou alors on réduit dans tous les cas au maximum l'utilisation de sa voiture, et pour le reste on réduit sa vitesse quand on peut dès qu'on est au-dessus des 80 km/h. Alors ça va vous faire perdre quelques minutes en rallongeant un petit peu le trajet, effectivement, mais ça fait partie des petits gestes pour la planète. Et si même ça ne vous convainc pas, eh bien dites-vous que ça vous fera économiser de l'argent, puisque vous ferez quand même un petit peu moins souvent le plein.
Voilà, Camille s'occupe de nos économies dans ce rendez-vous que vous pouvez réécouter bien sûr sur franceinter.fr.
Jean-Baptiste Fressoz, vous disiez tout à l'heure par exemple que les électriques, les énergies renouvelables, finalement c'était un peu un leurre, enfin que ça servirait à rien. Donc par exemple, limiter la vitesse, baisser la vitesse sur la route, pour vous, c'est aussi un leurre, ça ne suffira pas.
Non, au contraire, c'est très important. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le truc qui coûte rien, qui a une efficacité tout de suite. Donc, c'est sûr que ce serait.
Ça dépend des fois.
Ouais, c'est ce que vous avez expliqué. Mais déjà, ça inciterait les gens à acheter des voitures moins puissantes. Les voitures les plus lourdes, c'est celles qui, parce qu'il faut voir tout le CO2 qui est incorporé dans les voitures. Et pour la voiture électrique, c'est pour ça que c'est en partie un leurre. C'est parce qu'en fait, il y a énormément d'énergie incorporée dans la production de la batterie. Et donc, le bilan dans les pays où il y a encore du charbon dans le réseau électrique est pas bon. En France, c'est un peu différent parce qu'il y a quasiment que du nucléaire. Mais voilà, donc c'est effectivement le fait qu'on ait mis, que Macron ait mis un de ses multiples jokers, parce que si j'ai bien compris...
Il en a utilisé trois, officiellement trois.
La 5G, je sais plus si on était un autre. Enfin, en tout cas, ça montre bien... Voilà, c'est ça, pour ça, c'est un exemple parfait de procrastination. C'est-à-dire le truc qui est facile à faire, on ne le fait pas.
Allez, on se retrouve dans un instant pour cette histoire du changement climatique. Let's make it real. C'était Hills sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine scientifique de la planète. Mathieu Vidard sur France Inter.
Tiens Camille, puisque vous prononcez si bien les titres et les noms des artistes.
Oh, ça va. Les révoltes du ciel, Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher. Une histoire du changement climatique, 15e, 20e siècle.
Absolument, aux éditions du Seuil. Voilà, ils sont avec nous, sont nos invités cet après-midi. Alors vous dites, Fabien Locher, que l'idée de ce livre est née d'une trouvaille et d'un étonnement autour d'une enquête lancée par le gouvernement français. Dans quelles conditions était-ce?
Oui, effectivement. Alors en fait, notre découverte de départ, ce sont les archives d'une grande enquête qu'avait lancée le ministère de l'Intérieur français en 1821. Mmh. Et cette enquête, c'était le ministre de l'Intérieur donc qui écrivait au préfet en leur demandant « Est-ce que le climat de votre département a changé depuis 30 ans ? Et est-ce que l'homme en serait le responsable ?» Donc une enquête sur le changement climatique lancée par un État occidental en plein 19e siècle.
Il y a 200 ans.
Une certaine surprise pour nous au départ. Surtout qu'on avait trouvé ce fond dans une bibliothèque de Météo France où il était un peu égaré là depuis quelques décennies. Donc c'était vraiment une découverte et avec à la clé toutes sortes de lettres, de mémoires, de réponses venues de maires, de propriétaires, de préfets, de fonctionnaires des eaux et forêts, enfin toute une masse de réponses avec ce trait commun, hein. Ils ne sont pas étonnés qu'on leur pose la question en 1821. Parce que dans leur univers mental, il y a le changement climatique et il y a l'agir climatique humain.
Mais du coup, en vous écoutant Fabien Locher et Jean-Baptiste Fressoz, quelque part, vous allez contre la théorie, enfin la vérité même aujourd'hui, de dire que les activités humaines depuis la révolution industrielle sont à l'origine du changement climatique. Finalement, vous êtes en train de nous dire que ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. Donc quelque part, ça casse ce qu'on entend tout le temps partout.
Non, pas du tout. Alors là, il faut vraiment que les choses soient claires. Le sujet qui nous intéressait, c'est vraiment une question historique. C'est-à-dire, c'est comment on a pensé la question du changement climatique avant qu'on parle de CO2 et d'effet de serre. Donc, il faut bien distinguer les savoirs concrets sur le cycle de l'eau, la déforestation, et puis les savoirs contemporains sur le cycle du CO2 et le réchauffement climatique. Donc, pour moi, il y a vraiment deux objets différents, en fait, d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est que on retrouve des similitudes dans les débats politiques, économiques, contemporains autour des énergies fossiles. C'est des grands enjeux de développement économique. Si on veut chercher le même genre de choses dans le passé, il faut regarder les forêts, il faut regarder le cycle de l'eau, parce que c'est aussi des très gros enjeux économiques et politiques.
Fabien Locher, vous écrivez bien d'ailleurs que vous n'avez pas cherché les origines d'une conscience écologique ou notre souci climatique actuel. Hein. C'était plutôt chercher à comprendre justement comment pendant 4 siècles, en l'occurrence, on a pensé le rapport à l'environnement.
Oui, c'est ça, tout à fait. Pour poursuivre sur ce que disait Jean-Baptiste, c'est presque l'inverse qu'on a démontré, en fait. Notre livre démontre la solidité, en réalité, des savoirs sur les changements climatiques, parce que ce qu'on montre, c'est que les savoirs sur le changement climatique n'ont pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais ils ont des siècles, en fait. Les sociétés occidentales ont réfléchi sur le changement climatique depuis longtemps, ont produit des savoirs. Ces savoirs ont gagné en robustesse au cours du temps, ils ont été contestés, ils ont fait l'objet de publications, ils ont fait l'objet de débats, etc. Et donc, en fait, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire, notre livre ne prétend pas du tout dire que les préoccupations sur le changement climatique ont toujours été là et que c'est une espèce de serpent de mer. Non, c'est dire presque l'inverse, de dire que on s'est préoccupé depuis longtemps du changement climatique, certes, mais c'était les forêts, le cycle de l'eau, et par ailleurs, qu'on a produit depuis fort longtemps des savoirs à ce propos, ce qui ancre en un certain sens l'expertise contemporaine dans une histoire longue et qui la rend plus crédible.
Oui. En filigrane d'ailleurs du livre, Jean-Baptiste Fressoz, il y a à la fois l'impact donc des activités humaines effectivement sur le climat, mais aussi la façon dont l'homme se perçoit lui-même par rapport à la nature, avec un pouvoir considérable quand même, hein, pour être capable d'imaginer qu'il peut penser justement le changement climatique. C'est quand même...
Tout à fait, ouais. Moi, ce qui nous a frappé aussi, c'est le discours d'abord triomphal. On est capable de fixer. Buffon dit l'homme peut fixer le climat au point qui lui convient le mieux.
Oui, c'est gonflé quand même.
Gonflé. Bon, donc on est dans un anthropocène optimiste pendant longtemps.
Exactement.
En fait.
Ouais.
C'est vraiment ça qui nous avait frappé. Et quand on commence à comprendre l'effet de serre, le fait que le CO2 effectivement réchauffe le climat, pendant longtemps, c'est vu comme quelque chose de positif. C'est-à-dire les premiers qu'on estimait être les précurseurs du changement climatique, Tyndall, Arrhenius, ces grands savants qui en fait s'intéressent que modérément à cette question. C'est pas pour Tyndall, qui est un grand physicien expérimentateur anglais, la question du changement climatique, c'est pas du tout le cœur de ce qui l'intéresse, c'est des problèmes de transformation de l'énergie, des trucs fondamentaux de physique, peu importe. On extrait de ses mémoires le petit machin qui dit qu'il a parlé du changement climatique, mais c'est pas du tout le sujet. Mais en tout cas, quand il en parle, peut-être de manière un peu trop légère, Tyndall ou Arrhenius, ils disent c'est bien, en fait, on va reculer l'arrivée du prochain âge glaciaire.
Oui, c'est ça, oui. C'est toujours dans cette idée de glaciation générale, en fait.
Donc on est aussi dans un anthropocène hyper optimiste à la fin du 19e siècle, quoi. L'homme est capable de repousser un âge glaciaire, c'est pas mal aussi.
Ouais. Fabien Locher, rapidement, parce qu'on va devoir partir du côté du reportage de Caroline Gillet, mais vous racontez quand même que la première alerte climatique a été lancée au 18e par l'intendant d'une île autrefois appelée Île-de-France, qui est aujourd'hui l'île Maurice. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque?
Alors effectivement, c'est Pierre Poivre, l'intendant de l'Île-de-France qu'on appelait Maurice, qui a été l'un de ceux qui ont intronisé la figure de la catastrophe climatique. Auparavant, c'était surtout l'idée de l'amélioration, mais là, maintenant, c'est avec Poivre apparaît l'idée de la catastrophe climatique. Alors ce qu'on montre quand même dans le livre, c'est que Poivre a un rôle, mais qu'on a tendance plutôt à minorer. Hein. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est que c'est plutôt la politisation de cette question-là autour d'enjeux de propriété, de la forme du régime à adopter en France, qui rend la question inflammable au XIXe siècle. Et puis ensuite, et c'est un aspect qu'on n'aura pas le temps de développer ici, mais qui est important aussi dans les empires, où le changement climatique va être aussi un élément important du discours colonial. Mais ça, peut-être... On n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui.
Allez, en tout cas, vous restez avec nous et c'est l'heure d'accueillir notre reporter Caroline Gillet. Dernier épisode aujourd'hui jeudi de votre série de reportages sur les femmes en archéologie. Bonjour Caroline.
Bonjour Mathieu. Alors hier, on a abordé les questions d'éthique qui se posent sur les chantiers de fouilles et parmi elles, il y a la problématique du sexisme. On part aujourd'hui pour le sud de la Belgique. Laura Marie, 28 ans, a créé en 2017 le site Paye ta truelle. Sur internet, elle y recueille des témoignages pour dénoncer le harcèlement sexiste. Elle dit que les femmes ont souvent du mal à sortir du silence dans le milieu très compétitif de l'archéologie. Plus récemment, Laura Marie a aussi imaginé et mis en place une charte anti-discrimination. Pour parler de tout ça, elle m'emmène chez elle. Elle m'a donné rendez-vous à la gare la plus proche.
Chers voyageurs, nous arrivons en gare de Jean-Blou.
Salut, ça va ?
Ça va très bien,
ouais.
On va sortir de la gare.
Cool,
Est-ce que tu veux qu'on regarde la page pour voir ce qu'il peut y avoir comme témoignage ? Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué ?
Oui, attends, j'essaye de trouver, mais le tout premier qui t'est arrivé.
Donc ça, c'est celui que t'as reçu le 4 janvier 2017, le tout premier.
Oui, c'était mon premier chantier. J'étais seule avec mon responsable de secteur dans une voiture. Alors que l'on parlait 2 secondes avant du travail de la journée, il m'a soudainement demandé si j'étais vierge. J'étais choquée et je n'ai pas su quoi répondre. J'étais féministe avant de rentrer à l'université et je n'avais pas l'idée au début de lier à la fois mon engagement féministe et mes études d'archéo. Et puis j'ai eu mon premier chantier en 2e année d'université et puis ce 2e chantier, ce 3e chantier et je me suis rendu compte, ok, il y a un souci en archéo, il y a un souci dans la manière dont les responsables et archéologues, professeurs parlent et interagissent avec les étudiantes. Il y a un souci dans la manière dont on répartit les tâches sur les chantiers. Les filles, on va plutôt les orienter vers le tamisage, porter des seaux, les brouettes, nettoyer la zone avant la photo, vers le laboratoire, vers l'analyse des restes fauniques, par exemple, un travail qui va être plus minutieux, qui demande plus de patience. Et puis les hommes, on va plutôt leur laisser le travail lourd, donc avec les pioches, avec les pelles, les travaux de direction du chantier, où c'est le cerveau qui...
Qui est sollicité,
oui, c'est ça. Et il se trouve que sur les chantiers sur lesquels j'allais, comme j'étais déjà un peu étiquetée la militante féministe de service, il y avait beaucoup de jeunes femmes ou des étudiantes qui venaient vers moi pour me confier des histoires qu'elles-mêmes avaient vécues, soit sur le chantier sur lequel on était, soit sur d'autres chantiers, pour que je valide leurs expériences, pour qu'elles comprennent qu'elles n'étaient pas déjà seules, qu'elles n'étaient pas folles, qu'il y avait réellement un souci. Et donc moi, à part faire un travail de soutien psychologique à ce moment-là, je ne pouvais pas faire grand-chose, mais je les écoutais malgré tout, je leur donnais quelques conseils, un peu d'autodéfense féministe, et j'ai commencé à chercher pour voir s'il n'y avait pas des initiatives qui existaient dans le milieu francophone sur le sexisme en archéologie, les discriminations en archéologie, peut-être de manière plus générale. Il n'y en avait pas. Par contre, en francophonie, il y avait Paye ta schneck, qui était créé par une militante féministe qui s'appelle Anaïs Bourdet, pour dénoncer le harcèlement sexiste dans l'espace public. Et donc, je me suis dit, ok, très bien, on va lancer Paye ta truelle.
C'est ici que tu travailles.
C'est ici que je viens faire ma petite recherche. J'ai beaucoup de bouquins féministes.
Ok.
Ou bouquins d'archéologie du genre. Et quand je dois commencer à prendre des notes pour des conférences ou quoi, je viens ici.
Et du coup, t'as quoi ? C'est quoi tes livres ?
Encyclopédie du genre, dictionnaire féministe, les Beauvoir, évidemment, le Butler, Bell Hooks. Voilà, et puis après, tous les bouquins anglophones sur l'archéologie du genre. Il y en a quand même pas mal. En archéologie, ce qui se passe, c'est qu'on travaille sur le terrain en groupe et on partage tout. On partage le travail, on loge au même endroit, parfois sous tente, parfois dans un hôtel, parfois dans une maison de fouilles. Mais on est toujours ensemble, on mange ensemble, on fait la fête ensemble. Et donc les frontières entre le privé et le professionnel se brouillent assez vite. C'est-à-dire que le professeur qui, la journée, te donne des ordres, tu vas peut-être le retrouver à côté de toi le soir, assis sur le banc, en train de boire sa bière, et peut-être que pendant que vous rigolez, il va te mettre la main sur la cuisse, et peut-être qu'il va remonter un peu plus haut, parce que c'est une petite étudiante qui est sur le chantier, qui reviendrait peut-être même pas sur le chantier l'année prochaine, peut-être même qu'il va abandonner l'archéologie, donc pourquoi pas. ce n'est jamais la faute des victimes, des étudiantes qui sont là et qui peuvent se laisser séduire par le professeur. C'est le professeur qui ne doit pas outrepasser sa position pour se permettre d'aller draguer ses étudiantes ou de les toucher de manière inappropriée sur les chantiers. Mais les conditions font qu'on reste quand même dans un espace clos, un espace qui engage le corps, parce qu'en archéologie, parfois, on va fouiller dans des positions qui sont un peu inconfortables, peut-être avec, je sais pas, les fesses en l'air, à quatre pattes. Si on était professionnel, ça n'arriverait pas, mais apparemment, comme le patriarcat imprègne un peu toutes nos relations, il se passe que si on se met à quatre pattes pour travailler dans une zone, apparemment, c'est feu vert pour pouvoir faire des remarques sur les fesses ou sur le décolleté. Ça a été mal compris. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, quand ils viennent de me parler de Paillette à Truelle, qui me disent « Oui, mais pourquoi est-ce que l'archéologie serait particulièrement sexiste ?» Elle ne l'est pas particulièrement. L'archéologie n'est pas épargnée. Le sexisme, c'est un problème qui est systémique. Ça ne se limite pas uniquement à une discipline. C'est juste qu'il y a du sexisme en archéologie. Et comme on n'en parle pas, autant qu'on en parle maintenant avec ce projet.
Laura Marie est aussi commissaire d'une exposition itinérante qui s'appelle Archéosexisme. On mettra les lieux et dates de cette tournée, ainsi que le lien de Paillette à Truelle sur le site de l'émission. Et on retrouve les témoignages de Laura Marie et de Ségolène Van de Velde demain, vendredi soir, 21h dans Full Continental.
Et sur France Inter, bien évidemment. Merci beaucoup Caroline Gillet. L'ensemble de vos reportages donc sont à réécouter sur franceinter.fr. Jean-Baptiste Fressoz, puisqu'on parle de la place des femmes en sciences, dans votre histoire du changement climatique, bon, on n'en croise pas beaucoup des femmes. Hein.
Alors on en croise une, mais c'est assez génial ce qu'elle écrit. C'est une américaine qui s'appelle Eunice Foote, F-O-O-T-E, qui en 1856, en fait, est la première à poser l'effet de serre, à montrer que le CO2, effectivement, a un effet radiatif.
Rien que ça, quand même.
Et c'est 5 ou 6 ans avant Tyndall, donc, qui est effectivement un physicien qui lui montre ça avec des dispositifs beaucoup plus complexes, peu importe, mais c'est vrai que c'est elle qui montre ça, la première.
Une remarque d'Annie sur l'application France Inter. Les humains étaient familiers des changements climatiques inexpliqués dans le passé et à plusieurs reprises. Des éruptions ont provoqué un refroidissement sévère et durable, par exemple le Tambora en 1815.
Tout à fait. Alors, le Tambora a un rôle important, en fait, dans notre histoire. Donc, un énorme volcan, un refroidissement, une énorme explosion, des milliers de tonnes, des milliards de tonnes envoyées dans l'atmosphère, un refroidissement global, la fameuse année sans été de 1816 qui provoque des famines catastrophiques en Chine, en Inde, outre le fait que la péninsule de Sumbawa est détruite en fait par le volcan, donc c'est d'abord une catastrophe locale, mais c'est une transformation globale du climat. Et il y a énormément de réflexions autour du changement climatique à partir de ce moment-là. L'enquête de 1821 dont on a parlé, c'est d'une certaine manière une conséquence de l'expo du Tambora. Personne, ou presque, ne fait le lien, à part un seul savant qui s'appelle Volney, parce qu'il a lu en fait des récits locaux. C'est un orientaliste, un grand orientaliste, qui suit ce qui se passe en Asie, et il fait ce lien assez puissant entre le volcan et le climat global.
Allez, dans un instant, la saga des humains, Evelyne Heyer, qui nous parlera de l'homme de Denis Sauva aujourd'hui. Bout du monde, Émilie Loiseau.
France Inter, la Terre au carré.
Et c'est l'heure du rendez-vous de la saga des humains avec vous, Evelyne Heyer. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Evelyne.
Aujourd'hui, Evelyne, vous allez nous parler d'un autre humain, justement l'homme de Denis Sova.
Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de ce cousin disparu. On a beaucoup entendu parler de l'homme de Néandertal que notre espèce a rencontré lors de la sortie d'Afrique il y a 70 000 ans. Mais nous avons un autre cousin, lui aussi disparu, l'homme de Denisova. Il a été trouvé dans la grotte de Denisova, d'où son nom, dans l'Altaï, au sud de la Sibérie. C'est au croisement des frontières russes, kazakhs, chinoises et mongoles. La première découverte de ce cousin est faite à partir d'un bout de phalange. Dans cette phalange, un peu d'ADN, certes bien abîmé, mais suffisamment pour en connaître un peu plus sur lui. C'est un cousin proche de Néandertal, et comme pour Néandertal, nous nous sommes croisés avec lui.
Donc, comme pour Néandertal, est-ce que tous les humains hors d'Afrique ont du Denisova en eux, Evelyne ?
Non, notre espèce se mélange avec Néandertal au Moyen-Orient au moment de la sortie d'Afrique. Donc tous les humains, lorsqu'ils partent en Eurasie, Océanie, Amérique, emmènent un peu de génome néandertalien, environ 2%. Mais notre espèce ne croise Denisova que plus à l'est, en Asie, sur le chemin de l'Australie et de la Papouasie. Donc ce sont surtout les populations de Papouasie et les aborigènes d'Australie qui ont reçu du génome de Denisova. Jusqu'à 6% et un peu les populations d'Asie du Sud, alors qu'on n'en trouve quasiment pas dans les populations européennes.
Mais Denisova, Evelyne, a été trouvée en Sibérie, donc c'est quand même très loin de l'Asie du Sud ou de la... Alors vous dites Papouasie, vous, Evelyne ?
Oui, tout à fait, Mathieu.
Bon.
Et c'est d'ailleurs une des grandes interrogations sur Denisova. On a une autre énigme en plus. On retrouve un bout de génome de Denisova dans les populations tibétaines et pas n'importe quel bout. Celui-ci contient un gène d'adaptation à l'altitude. Vous le savez, les Tibétains vivent à des altitudes élevées et y sont particulièrement bien adaptés. Or, en analysant le génome de Denisova, on sait que ce gène vient de Denisova. Encore un croisement bénéfique pour Sapiens.
Oui.
Mais enfin... C'est quand même à 2800 km de la grotte de Denisova en Altaï. Alors, deux articles viennent de sortir dans la revue Science qui éclaircissent un peu le mystère de cet homme de Denisova. Les chercheurs d'une équipe du Max Planck en Allemagne et en Mongolie viennent d'analyser l'ADN d'un très ancien sapiens nommé Salkit qui date de 34 000 ans au nord-est de la Mongolie. Et dans ce génome, des bouts de Denisova, signature d'un mélange qui daterait d'au moins 40 000 ans. Donc, il était là, bien à l'est, il y a plus de 40 000 ans. Une autre étude, par une équipe sino-germano-américaine, a analysé l'ADN que l'on peut trouver dans des sédiments de la grotte de Bashiya Karst au Tibet. Et ils ont trouvé des preuves génétiques de la présence de Denisova de 100 000 ans, 65 000 ans et peut-être 40 000 ans. Ça complète une étude plus ancienne qui avait trouvé une mâchoire de 160 000 ans attribuée à Denisova grâce à des analyses de protéines. Donc, Denisova est resté longtemps au Tibet et il a eu le temps de s'adapter à l'altitude avant de rencontrer Sapiens, notre espèce, qui par croisement a récupéré ce gène.
Merci beaucoup Evelyne Heyer, c'était la saga des humains et c'est tous les jeudis en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de ce livre L'Odyssée des gènes qui est sorti chez Flammarion à la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous deux, Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher. Merci d'être venu nous présenter ce livre.
Merci.
Les révoltes Merci. Du ciel aux éditions du Seuil, une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle.